Cet enregistrement est hébergé sur Notes du Mont Royal dans le cadre d'un exposé gratuit sur la littérature.
De l'importance des nuages et de la lune. Quelle lune? Celle du printemps? Une lune brumeuse, vague. Il faut la pluie aussi. Les pluies. Les pluies, on les attend, on les craint. Elles sont nécessaires, sinon c'est la famine. Mais c'est aussi la pluie, les épidémies. Donc, il faut qu'existent des dieux, les dieux des épidémies. Lune de pluie, lune vague. La discussion météorologique n'est pas vaine. Elle aide à la rêverie, celle qui habite les personnages des contes de la lune vague, celle qui nous poursuit, nous, spectateurs. Rêverie, fantôme. Quel est le fantôme? Mardi du cinéma, Les contes de la lune vague par Simone Dweck. Réalisation Daniel Fortunarossa. Première diffusion sur France Culture le 25 juillet 1995.
Ugetsu Monogatari. Conte de la lune vague après la pluie. Wakasa Kiyo Machiko, Ohama Mito Mitsuko, Miyagi Tanaka Kinuyo, Genjuro Mori Masayuki, Tobei Ozawa Sakai. Mise en scène de Misoguchi Kenji. Cela commence par un long travelling dans la campagne japonaise, la région du lac Biwa, au XVIe siècle. Le travelling est lent, au-dessus des champs cultivés, arrière-fond de collines boisées. Le temps semble sans limite. Mais déjà on a compris. En trois plans, par le jeu des fondus enchaînés, l'espace crée son étendue. La caméra filme aussi bien la brume et les contours indéfinis que l'observation détaillée de l'architecture d'une maison de bois pour enfin diriger notre regard vers deux personnages dans le village. Un couple chargeant une charrette de marchandises. Le récit commence. Pour ce film, Mizoguchi s'est inspiré d'Ueda Akinari, auteur du XVIIIe siècle japonais, philologue et lettré, qui choisit de faire de ce recueil de contes un manifeste littéraire. Parmi les 9 histoires du livre, le cinéaste en a choisi 2 qu'il a liées entre elles. 4 personnages, 2 couples, en quête de leurs rêves intérieurs, séparés par leurs désirs. Le fond historique est défini. Les notations sur la vie quotidienne précises. La caméra sait se faire réaliste. Mais l'univers du fantastique, de l'irréel, des fantômes et de la mort, recréé par l'art du cinéaste, emporte les destinées. Conte de la lune vague après la pluie, de Mizoguchi Kenji. En japonais, on dit Ugetsu Monogatari. René Siffer.
Ce titre, moi, je l'ai traduit littéralement Conte de pluie et de lune. Ugetsu, c'est le mois des pluies, la lune des pluies, littéralement, qui est la 5e lune du calendrier sino-japonais, c'est-à-dire la saison des pluies de mousson, fin juin, début juillet. Et c'est à ce moment-là que c'est la saison la plus désagréable du climat japonais, puisque vous avez, nous y entrons justement, vous avez la même température jour et nuit et une température qui progressivement va de 20 à 30 degrés en moyenne. Et il pleut, il y a des années où il ne cesse pas de pleuvoir pendant plusieurs semaines. Quelquefois, il y a une accalmie qui ne dure jamais très longtemps et pendant laquelle les nuages se déchire brusquement et la lune réussit à passer. Mais ce n'est pas la lune qui est vague, c'est ce n'est pas du tout la lune de printemps où le ciel est clair, mais où une brume monte, une brume, le ciel, l'atmosphère est brumeuse et la lune est visible, mais avec un halo. Ce n'est pas ça. Ça, c'est Oborozuki, qui est le mois de mars, mars-avril, et qu'on pourrait traduire à la rigueur par lune vague. Mais à la saison des pluies, c'est pas ça du tout. Quand les nuages se déchirent, la lune est nette. Mais comme cela correspond à une accalmie de la pluie, immédiatement vous avez des vapeurs qui montent. C'est le moment où les rizières sont inondées, enfin, puisque on attend précisément ces pluies-là pour irriguer les rizières. Si par hasard ça arrive une année sur 10 ou 15, la saison des pluies est vide, comme on dit, c'est-à-dire qu'il ne tombe pas une quantité suffisante d'eau, la récolte est ratée. Et autrefois, c'était la famine. Donc, on attend ces pluies tout en les redoutant. Parce que, avec cette température-là, c'est aussi la saison des épidémies. Alors, les gens meurent comme les mouches. Et on a inventé des dieux des épidémies, là, qui sont censés les combattre ou les éviter. Mais, alors, les gens meurent. Et on voit un peu partout monter les fumées des bûchers. Et puis, si par hasard la pluie ne tombe plus, on a ces vapeurs qui montent des champs un peu partout. Et quand la lune, par hasard, sort entre deux nuages, elle éclaire ses silhouettes. Et on voit des fantômes. Alors, Ugetsu, c'est aussi la saison des fantômes, le mois des fantômmes, le mois où le monde des vivants communique avec celui des morts. Et il y a un messager entre les deux qui est le coucou. C'est le moment précis où le coucou se met à chanter et ça vaut au coucou le surnom de messager de la mort ou de maître des chants de la mort ou guide des démons de la mort, enfin des choses de ce genre. Et alors vous voyez, tout ça est extrêmement redoutable. Parce que ces fantômes, on les voit partout, et c'est donc dans la littérature, dans le folklore, dans les contes, les fantômes apparaissent de préférence à ce moment-là. Et c'est la raison pour laquelle Akinari, le sous-titre est « Conte fantastique », intitule son recueil « Conte de pluie et de lune » ou de... À la rigueur, on pourrait traduire de la lune des pluies. Mais la lune des pluies serait trop précis.
Pourquoi les contes ? Chef-d'œuvre parmi 12 chefs-d'œuvre réalisés par Mizoguchi dans les dernières années de sa vie. L'imaginaire occidental projette sur le Japon traditionnel une série d'images, de paysages, de modes de vie et de rêveries qu'il se plaît à retrouver dans l'Ugetsu Monogatari. Le spectateur peut avoir oublié les cas de conscience politique de Mizoguchi pendant la guerre, cinéaste officiel en désaccord fondamental avec le système, choisissant de défendre la cause des opprimés. Il peut aussi avoir oublié qu'il s'agit là d'un nouveau départ dans la carrière du cinéaste. Lorsque le film sort, nous sommes en 1953, et cette histoire du XVIe siècle apparaît aujourd'hui, non daté dans le temps.
D'où provient ce bruit ?
D'espions, sans doute. Il faut que je dispose de ceci avant que commence le combat.
Tu peux tout vendre à Nagahama ?
Oui, c'est la prospérité depuis l'arrivée de l'armée à Shiba.
Je t'accompagne ?
Non, ces soldats sont sans pitié pour les femmes. Et puis, qui garderait Genichi, notre fils ?
Tu es stupide de rêver une chose pareille.
L'ambition, comme l'océan, doit être sans limite.
Samouraï, toi, tu ne sais même pas te battre. Continuons de travailler avec mon frère.
Tu verras, au nom du dieu de la guerre, j'en ai assez de la misère. Je pars avec toi. Ne pense plus à ces folies. Je tire ta charrette. Redeviens raisonnable.
Non, mon frère, il croit que la gloire l'attend en ville.
Il est stupide.
Daniel Cerceau.
Il prend donc une histoire qui est vraiment inscrite dans l'histoire avec un grand H et s'intéresse directement au fond à, d'une part, à des rapports de couple, parce que c'est quand même ça aussi les ponts d'une vague, et deuxièmement, à, je dirais, une aventure masculine. Et il me semble que ce qui est intéressant et ce qui fait la très grande actualité de ce film aujourd'hui, c'est qu'au fond, nous avons quelque part une sorte de quintessence des rapports de couple et d'un certain type de conflit qui peut exister lorsque d'un côté des hommes sont nécessairement, je dirais, investis sur l'extérieur, alors que des femmes, je dirais presque encore aujourd'hui par rapport à cette époque, nécessairement sont investies sur l'intérieur. Et donc il y a ici une sorte de conflit nécessaire que bien évidemment Mizoguchi dialectise complètement, et à mon avis, en ne donnant ni tort ni raison donc aux hommes ou aux femmes, puisqu'il est comprendre l'intérieur, ce serait presque un point de rapport avec Renoir de ce point de vue-là, et qu'il analyse effectivement, donc, je dirais, les processus psychiques qui sont à l'œuvre, parce que c'est ça, si vous voulez, qui est le paradoxe de cet art, c'est que ce cinéma qui est le champion, toute catégorie du visible, quelque part filme l'invisible. Hein. Il filme l'invisible, c'est-à-dire des phénomènes de conscience qui, justement, dans quelque chose comme les contes de Nuvac, vont atteindre, si vous voulez, presque le degré infinitésimal, presque de l'ordre du fantasme. C'est-à-dire qu'il va filmer, si vous voulez, des phénomènes de conscience qui, en termes strictement réalistiques de réalité, n'ont pas droit de citer, presque n'ont pas d'objectivité dans une époque comme celle où il la filme. Au fond, si on ramène les choses de manière extrêmement simple, et c'est quand même ça que le film, je dirais de façon apparente, on a d'un côté, n'est-ce pas, un simple paysan qui rêve d'être un samouraï, purement et simplement. Bon, ce qui, évidemment, des conditions historiques de l'époque est impensable. Et de l'autre, un simple potier de village qui rêve d'épouser, je vais grossir le trait un tout petit peu, mais un tout petit peu seulement, une femme de ministre. Une femme de ministre qui serait quelque part, n'est-ce pas, un top modèle en même temps, quoi. Voilà à peu près ça. Bon, on est donc, si vous voulez, dans un type de désir qui relève, si vous voulez, du fantasme tel que certains peuvent en avoir en feuilletant des magazines ou autre chose. C'est ça, si vous voulez. Mais en même temps, c'est bien le fond, quelque part, du désir, sinon inconscient, en tous les cas, donc très largement caché aux individus eux-mêmes, qui évidemment donc ne peuvent exister socialement, ne peuvent même, je dirais, se négocier socialement que presque à l'insu même des protagonistes.
Le désir et la femme sont les moteurs du scénario.
C'est-à-dire qu'ils sont intimement liés.
Jean Douché.
Le film est très érotique. C'est un grand film érotique. Là par exemple, le rapport du potier et du paysan samouraï, on voit bien que Mizoguchi et son scénariste, ils ont relié ce rapport par le phénomène même de la sexualité, c'est-à-dire qu'un personnage va être l'inverse de l'autre dans tous les domaines, et en particulier dans ce domaine-là. Le personnage du potier, c'est le personnage de l'artiste, c'est celui qui poursuit son rêve d'art, d'une certaine façon, donc son rêve d'idéalisation, son rêve de beauté, et dans ce rêve de beauté, dont celui de sa céramique, celui des objets qu'il fait, s'immisce nécessairement le rêve de la beauté féminine, qui ne tient pas à une réalité de la femme, qui ne tient même pas à une réalité du corps de la femme, qui tient au fétichisme de tout ce qui aborde et les attributs du féminin, source à ce moment-là d'inspiration, de désir, d'excitation. Il y a des scènes extrêmement fortes de ce point de vue-là dans le film, où Mizoguchi, évidemment, de façon extrêmement suggérée, là on est dans l'art, le véritable grand art érotique, c'est-à-dire tout dans l'imaginaire au sujet de l'amour, mais du personnage du potier, on peut dire que d'une certaine façon, que nous avons un personnage quasiment masturbatoire. Enfin, il y a une scène, quand on la regarde très précisément en comprenant ce qu'elle veut dire, c'est la scène sur le bord du lac, lorsqu'il se retrouve au matin avec le fantôme, et justement le fantôme, donc le désir imaginaire que l'on poursuit d'une femme idéalisée, superbement habillée, maquillée, bon, dans le côté aussi inaccessible, dans le côté aussi aristocratique, enfin bref, tout ce qui est de l'ordre de l'intouchable et de l'ordre du désir inextinguible et inépuisable. Nous avons donc cette scène au matin et le personnage de l'homme poursuit ce personnage de femme qu'il n'arrive jamais à attraper, qui s'échappe en permanence. C'est une espèce de jeu comme ça, extrêmement élégant par ailleurs, très courtois. Et le personnage de l'homme tombe à terre et en extase, en épuisement et en extase, quasiment en fin d'orgasme, en disant c'est divin. C'est-à-dire, en d'autres termes, il a poursuivi mentalement son désir. Et quand on voit la scène de l'arrivée du fantôme par rapport à sa propre femme, on voit bien que la propre femme, avec le kimono que l'on voit au début, ne peut pas revêtir le kimono. Le kimono, c'est trop beau pour elle, dans l'idée que lui se fait d'une femme belle, donc d'une femme profondément désirable. La véritable épouse est une femme réaliste, dont la beauté est évidemment celle de l'amour, celle qu'elle porte aux autres, celle de l'ouverture aux autres, celle qu'elle porte à l'enfant, celle qu'elle porte à son mari. Mais quelque chose de l'ordre du désir véritable de l'être humain, et non pas de cette poursuite de la chimère et de l'illusion que poursuit justement le potier en poursuivant fantôme et fantasme par la même occasion. C'est très très précis dans le film. En fin de compte, quand on le regarde comme ça, on se dit mais c'est évident. Mais en même temps, tout est masqué pour que vous puissiez ne pas le voir du tout.
Peu importe que tu sois un démon, je ne te quitterai plus. Je n'aurais jamais imaginé pareil plaisir. C'est divin. C'est le paradis.
Autant, disons, que le personnage du potier est en fait il a le complexe donjuanesque. Il faut toujours séduire, plaire et poursuivre son plaisir et son désir jusqu'à l'épuisement. C'est la scène que je viens de vous citer qui est vraiment, il est épuisé. Bon. En revanche, l'autre personnage est un personnage qui est complexé par sa virilité par rapport à une femme, alors la paysanne, mais en même temps belle, par ailleurs, je veux dire physiquement.
Plus belle que la femme du potier.
Plus belle que la femme du potier. Mais qui est, qui est solide, quoi, qui est terrestre. Et qui donc a une d'emblée, c'est donné comme ça dès qu'on la voit, d'emblée, elle a une autorité, disons, on dirait en Europe, elle porte la culotte. Bon. Et le mari est en fait complexé par rapport à sa femme, et il lui faut prouver toute sa virilité. Donc vers quoi va-t-il courir ? Vers le la vêture de samouraï, c'est-à-dire armée, virile, superbe, etc. Bref, bon, il poursuit ce, et par la même occasion, tout ça pour séduire et plaire à sa femme et montrer sa virilité à sa femme, par la même occasion, il perd cette femme, pas véritablement, il va la perdre provisoirement, mais la mettant en danger, en péril, et elle, en tant que femme terrestre, donc pouvant se défendre matériellement, ne serait-ce que sexuellement, va devenir prostituée, et il va la retrouver dans un bordel prostitué. Et donc, toute la poursuite de sa chimère, se retournant contre lui, et à la fin, il se fera de nouveau paysan, parfaitement content et battu par sa femme. Enfin, disons pas battu, n'exagérons pas, mais en tous les cas, dominé par sa femme, et... En réalité, il est fait pour ça, quoi. Donc, ce sont en fait les deux grandes tendances érotiques de l'homme. Ou bien vouloir complètement dominer et faire de la femme un pur objet, ou bien être dominé par cet objet. Bon, le rapport un peu sadomasochiste. Enfin, c'est très précis. Par exemple, il est évident que lorsque le potier vient de, justement, de la scène que je viens de vous citer tout à l'heure, vient d'exprimer son épuisement de désir, de plaisir, de ce que vous voudrez, juste après, son épouse se fait tuer par un soldat affamé.
Avec l'enfant sur le dos.
Avec l'enfant sur le dos, et se fait percer d'une lance.
Et Tobei ?
Il a suivi un grand samouraï malgré mes conseils.
Seigneur, prenez-moi à votre service. Je suis brave.
Va-t'en, sale mendiant. Il te faudrait une armure et une lance.
Et je pourrais être samouraï.
Et les deux femmes, Miyagi et Ohama, peut-on alors, en faire un portrait?
Oui, tout à fait, d'autant plus que la mise en scène est extrêmement précise. Hein. Vous avez, je dirais qu'il y a chez Mizoguchi une ironie extrême. Bon, la plus simple, c'est évidemment la femme du potier Miyagi, qui est représentée à un moment donné de manière extrêmement claire. Lorsqu'en effet, donc, Genjuro, le potier, revient après avoir fait la première vente de peau, il lui offre donc un kimono. Et si vous regardez bien, donc, au moment même où elle enfilait ce kimono, lorsque sa sœur revient, immédiatement elle l'enlève, en se cachant de sa sœur, et du même coup d'ailleurs en faisant face pour nous à l'écran. Autrement dit, on voit combien dans ses beaux habits, où son mari la rêve quelque part, et encore une fois ça renvoie bien au fantasme d'image que j'ai représenté tout à l'heure, on voit à quel point en effet donc elle est elle-même extrêmement mal à l'aise. Et elle est entièrement orientée sur des valeurs domestiques qui sont les valeurs du foyer.
Ah.
Tourne toujours. Envoie-le promener, il nous gêne.
Sois bien sage, mon garçon.
Maman, j'ai faim.
Qui m'énerve. Allons, tourne.
Comme tu changes, tu deviens irritable. Je ne désire qu'une chose, travailler ensemble, tous les trois. Rien d'autre ne compte.
Elle, ça lui suffit. Mais du même coup, il y a dans son comportement, objectivement, une façon de s'opposer à ce qui est malgré tout le désir masculin et qui est lié lui-même aux images qui s'imposent donc en effet à l'homme, qui sont forcément des images de croissance, d'expansion, de désir d'objet quelque part, sinon impossible, sinon inaccessible, en tous les cas donc très difficile hors d'atteinte, mais qui en même temps sont une dynamique sociale. Parce que si effectivement on supprime ça, je pense que quelque part on supprime la dynamique sociale. Vous voyez d'ailleurs à quel point, en parlant au fond du Japon et d'un siècle donc très avancé par rapport à nous, on est complètement dans l'actualité quelque part. C'est ça qui est extrêmement étonnant. C'est-à-dire qu'en filmant directement ce qui est, je dirais, du plus secret du psychisme humain, on se retrouve sur un terrain où précisément il me semble que cette fois-ci les distinctions que l'on opère quelquefois un peu rapidement d'ailleurs entre Orient et Occident, qu'on veut quelquefois, n'est-ce pas, opposer comme deux contraires, quand même s'estompent pour ne pas dire se suppriment.
Tu travailles dur parce que j'ai un plan. Nous irons à Nagahama et nous deviendrons riches.
J'aurai une part?
Sûrement. Un tiers de la vente.
J'ai tant besoin d'argent.
Je ne les ai jamais vus travailler ainsi.
Ils ne vivent plus que pour ce four. Corps et âme, tous les deux.
Si cela échoue, que deviendront-ils?
Ce qu'il a devait lui suffire, mais non.
Dire qu'il était si calme jusqu'à présent. Comme la guerre change les gens,
ne les contrarions pas.
Le film commence tout au début par la guerre. Et Mizoguchi pose le problème d'emblée. La guerre est-elle un phénomène imposé par l'extérieur ou la guerre vient-elle de l'intérieur ? Je crois que pour Mizoguchi, elle vient de l'intérieur. C'est-à-dire que tout individu poursuit, et en particulier l'attitude masculine est de poursuivre un rêve et un désir, donc de rentrer en agression vers le monde, avec le monde extérieur. En ce moment-là, donc, d'entrer en guerre avec ce monde, c'est un besoin de conquête, un besoin de domination. Et cette guerre est en même temps aussi ce qui risque fortement de détruire son rêve. Enfin, la raison de sa conquête détruit la justification de que le rêve accordé à cette conquête. Comme si, au fond, pour Mizoguchi, c'était non pas une fatalité, mais c'est une réalité. C'est plus fort qu'eux. Et c'est dit tout à fait au début par le chef du village, lorsqu'ils viennent de partir l'un et l'autre, les deux beaux-frères, le chef du village...
Ils viennent de partir pour vendre les poteries au marché,
pour vendre
à la ville.
Au marché, etc. Donc, ils profitent de la guerre pour s'enrichir.
Le moteur de l'économie,
etc. À ce moment-là, le chef du village dit « Ils ont des désirs imbéciles ». C'est-à-dire que Mizoguchi travaille ici sur deux choses, à la fois le sens religieux bouddhiste du conte est vain. Toute poursuite de conquête de l'homme, il faut accepter le monde, etc. Ça, c'est attitude de contemplation et attitude de résignation. Et que Mizoguchi respecte dans tout le film, c'est la fin du film de ce point de vue-là est très intéressante, parce que il y a les deux tendances, il y a le côté religieux et le côté marxiste. C'est-à-dire qu'en même temps, Mizoguchi dit, oui, ça c'est bien gentil, mais il n'y a pas d'activité humaine, il n'y a pas de société humaine sans conquête, donc sans guerre. Et la guerre est liée à la, non pas à la nature, mais en tous les cas à la raison d'être de l'être humain, ce qui évidemment pose des questions. Mizoguchi est un réaliste. Tout son souci, c'est quand je vous parle justement qu'il a sur l'influence des auteurs du occidentaux du XIXe siècle, ce sont tous des réalistes. Et lui-même a été quand même marqué par le marxisme. Et son analyse est au fond marxiste. C'est-à-dire, il ne faut pas se leurrer sur le monde. C'est-à-dire, le film est fait sur comment se leurrer. On ne va pas se leurrer plus si on a en dehors d'un fantôme. Enfin, je veux dire, si on poursuit un fantôme, c'est qu'on se leurre complètement.
C'est le thème du leurre, oui, par excellence.
C'est par excellence le leurre. Et ne pas se leurrer, c'est savoir, justement, que il y a ces deux grandes tendances, justement, alors là, du désir humain, non plus au simple niveau de l'érotisme, mais au niveau beaucoup plus général, beaucoup plus universel, à la fois le désir de spiritualité, d'être en accord avec l'univers, et en même temps le désir de conquête de l'univers, qui est l'autre tendance. Et que ces deux tendances-là sont en effet en opposition extrême, disons, en tout cas, au moins l'un des deux est en guerre contre l'autre.
Tous ces thèmes, cher Mizoguchi, sont dits, comme vous le disiez tout à l'heure, par son cinéma, par son image, puisqu'il disait lui-même qu'il exprimait qu'il n'était pas un homme de parole. Il a donc une esthétique très particulière.
Alors, une esthétique très particulière, en effet, mais qui, en même temps, si vous voulez, est d'abord, je dirais, assez liée au cinéma japonais, et deuxièmement, peut-être, est-elle la quintessence de, par certains côtés, de ce que un certain cinéma a pu développer et mettre en place, en le mettant progressivement au point, jusqu'à la fin des années 60 à peu près. Bon, premièrement, esthétique, en effet, moi j'ai pu appeler ça, n'est-ce pas, un art de la condensation dans la lenteur calculée d'un plan, en ce sens qu'il y a chez Mizoguchi une lenteur réelle. Et cette lenteur est paradoxale en ce sens que vous avez donc des plans qui semblent être très étirés, encore une fois, avec un rythme extrêmement lent, et en même temps chez Mizoguchi, des ellipses extrêmement brutales, n'est-ce pas, qui donnent une accélération brutale au récit. Bon. Alors, je disais donc tout de suite que ceci est assez caractéristique du cinéma japonais, qui est dans son ensemble donc un cinéma assez lent, avec un découpage qui comprend très peu de plans, très souvent. Hein. Vous retrouvez aussi bien ça, n'est-ce pas, chez Mizoguchi, donc notamment, que chez Oshima aussi. Oshima a fait des films avec un très petit nombre de plans, mais vraiment un très petit nombre de plans. Bon, ça c'est donc la dimension, je dirais, d'esthétique un peu propre, n'est-ce pas, aux choses. Certains expliquent par des conditions économiques, ça moi je ne crois pas. Je crois en effet que c'est plutôt donc en effet une tradition qui s'est opérée, dont je ne connais pas en fait vraiment la clé. Bon, L'autre point, donc, en effet, c'est ce que j'ai appelé cet art de la condensation, c'est-à-dire cette idée que le cinéma est fait pour densifier au maximum. Ici, on peut faire un détour par Roberto Rossellini, qui est quelqu'un qui a, au fond, très bien exprimé les choses. Vous savez combien Rossellini était un homme d'une extrême intelligence. Et il dit, le cinéma est un art, donc, qui consiste à mettre 10 photogrammes en un seul. Bon. Eh bien, je crois que chez Mizoguchi, cet art de la condensation, en effet, atteint un point vraiment maximal. Et on peut repérer chez lui, à l'œuvre, un très grand nombre, donc, d'éléments qui permettent de faire cela. Par exemple, dans Les Contes d'une vague, il y a un moment où on voit Genjuro qui quitte la forêt où ils sont réfugiés parce que l'armée donc est venue envahir. Et Genjuro est évidemment très inquiet de la cuisson de ses peaux. Et donc on le filme et on commence par le filme bon, qui se lève et qui quitte la forêt qui nous semble donc évidemment assez loin du village forcément. Et le plan suivant, on le voit donc qui est en train de parcourir un sentier de montagne.
Il descend le petit sentier.
Voilà. Alors on se dit effectivement, il est sur la route, hein, évidemment. Et puis non, la caméra se recule et hop, on arrive tout de suite, n'est-ce pas, au four. Donc vous voyez comment il y a du même coup une activité psychique du spectateur qui est extrêmement et constamment donc sollicitée. Dans un premier temps, on se dit tiens, il est en route pour le village. Et puis dans un deuxième temps, on se dit ah ben non, il est déjà arrivé. Et vous avez des effets comme cela qui renvoient aussi à une chose que Mizoguchi a beaucoup travaillé, qui est l'opposition entre deux types de représentations, pour parler simplement. D'une part, la représentation en tant qu'elle est sur l'écran, c'est-à-dire l'image du film, l'image son du film, et de l'autre, la représentation en tant que nous, spectateurs, à tout instant d'un film, pour le comprendre, eh bien, nous nous faisons une certaine image, une certaine représentation de cette représentation. Et il joue constamment sur le conflit qui existe entre les deux. Il y a sans arrêt, n'est-ce pas, un aller-retour, voire une dialectique entre les deux, travaillant donc en effet également sur la base de l'opposition qui existe toujours entre le film que le spectateur veut voir et le film qu'il impose au spectateur.
Je suis emportée devant un paysage de lune, une lune qui n'est pas vague, comme le dit la traduction, mais qui est une lune, au contraire, dont le contour est extrêmement, je dirais presque, acéré, caché derrière des nuages qui se déchirent après la pluie. Et c'est en ce sens que ce tableau entre en résonance dans mon esprit totalement avec le film de Mizoguchi. Et emportée par ce très beau paysage, dont l'inspiration a dû venir au peintre Goto Sumio, cette inspiration a dû lui venir à Nara. Et je suis en train de m'interroger sur la perception du paysage chez les artistes en général, chez ces deux artistes en particulier, le peintre et le cinéaste. Et je cherche à comprendre ce qui est conscient et inconscient, dans quelle mesure, et ce qui est conscient et inconscient d'une part, et d'autre part, ce qui vient de la nature et ce qui vient de l'homme.
C'est comme un archétype du paysage japonais. Daniel Elisseyev, arrêté devant un tableau du peintre japonais contemporain Goto Sumio, nous rappelle combien les images, données à nous par des arts différents, renvoient à une perception de la nature qui va chercher, derrière les saisons, les brumes, les neiges ou les printemps, le sens caché des éléments et des lumières.
Quand on est à Nara, effectivement, on est pris par les montagnes, on est pris par l'architecture qui elle-même a été calculée au plus juste et en fonction de la géomancie, mais aussi en fonction d'une perception esthétique de l'univers pour se couler dedans et faire que nature et bâtiment se rendent l'un et l'autre mutuellement nécessaires. Et on est emporté donc dans ce paysage et l'on ne sait plus très bien. On a l'impression que des images se bousculent dans l'esprit. Elles entrent en résonance avec les peintures de l'an, peut-être pas de l'an 1000, mais immédiatement après, du 11e, 12e siècle. Je fais référence aux peintures du célèbre roman le Genji, l'histoire du prince Genji, qui a été illustrée donc dans la seconde moitié du 12e siècle. Et je me demande toujours. Et ce qui est perçu comme référence explicite et ce qui ne l'est pas. Alors, je pense que Il y a un découpage par exemple des plans, je dirais verticalement, la place du ciel. Et vous voyez ici, le ciel est très petit, c'est-à-dire qu'il ne représente même pas un tiers, il représente un gros quart seulement de la peinture, tout le reste c'est la terre. Et cela, je crois que c'est une réminiscence, c'est quelque chose à rattacher véritablement à la peinture, parce que quand on est dans l'univers japonais, on est perdu entre ciel et terre, on est un pivot entre le ciel et la terre, comme dit la philosophie sino-japonaise, et l'on n'a pas conscience de ces limites-là. Je pense aussi que la philosophie japonaise traditionnelle, et à travers le Shinto, donc c'est cet ensemble de croyances qui s'est chargé de beaucoup de choses au cours des siècles, mais qui véhicule aussi toutes les religions naturelles. Et toutes ces croyances-là font de l'homme non seulement un fils de la terre, mais également quelqu'un qui retourne à la nature, puisque quand les gens sont morts, ils deviennent des esprits qui vont loger dans les arbres et habiter les montagnes.
Si on parle de la relation à l'univers, j'ai envie d'utiliser des images plus bachelardiennes cette fois-ci, et de parler de la terre et de l'eau, parce que ce sont des éléments, des composantes qui comptent beaucoup, non, dans les contes de la Lune Vague.
Bon, alors, en ce qui est, oui, je vais dire les quatre éléments, bien que le feu...
Mais il y a le feu du potier quand même, oui.
Mais non, le feu du potier, et puis le feu aussi de l'âtre, etc., mais le feu, bon, n'est pas quand même l'élément dominant. Il est vrai que les deux éléments majeurs sont l'eau et la terre, c'est exact. Puis quand même l'air, hein, le ciel est quand même très présent. Mais alors, en ce qui concerne la terre, c'est le terrestre. Bon, ça c'est pas compliqué. Et en particulier la glèbe que doit travailler le potier. De ce point de vue-là, par exemple. Là aussi est très passionnant l'opposition entre le potier et le paysan samouraï. C'est que le paysan samouraï devrait normalement, en tant que paysan, être terrestre. Or, ce qu'il poursuit, c'est ce qui n'est pas terrestre. C'est-à-dire, c'est l'armure, c'est le militaire, et absolument pas, justement, il fuit le terrestre. Alors lui aussi, il est en état de fuite par rapport à sa réalité première, et je dirais à son activité première. Alors que le potier, dont l'activité est justement de créer des œuvres d'art, enfin l'activité, dont il va découvrir que qu'au fond, le désir le plus fort qu'il ait en lui, c'est de l'utilitaire passer à l'artisanat qui obligatoirement ouvre les portes à l'art. Donc, et cette aspiration à sublimer son propre travail, mais une sublimation qui ne peut se travailler, qui ne peut se faire qu'à partir de la glèbe et qu'à partir du pétrissage de cette glèbe. D'où l'importance que Mizoguchi accorde dans son film à la façon de fabriquer une poterie. Il ne faut pas oublier que pour faire ce film, Mizoguchi, pendant 3 mois, a pris des leçons de poterie pour donner une exactitude documentaire à la façon d'être d'un potier. Et en effet, glèbe et feu à ce moment-là, ce qui est tout à fait très fort. C'est-à-dire que c'est quand même sur et par la terre que l'on retrouve quand même les forces vives et de la vie et du réel et je dirais du sens commun dans le sens de la responsabilité même de communautaire, etc. Bon, par le chef de village, tout ça, c'est dit. En revanche, l'eau, comme toujours chez Mizoguchi, et puis comme chez beaucoup d'artistes, en particulier d'artistes à tendance poétique, l'eau est reliée au féminin, parce que nous sommes ici dans deux... Et chez Mizoguchi, c'est quasiment toujours le cas, il n'a pour ainsi dire jamais filmé la mer en tant que telle, jamais filmé l'océan. Pourtant, il y en a. C'est pas le problème au Japon. Non, ce qu'il filme, c'est l'eau douce, l'eau d'un lac, et encore d'un petit lac très cernable, en général, dans toute son œuvre, l'eau qui court, et c'est le cas absolument ici. Et l'eau, chez lui, est toujours liée, bon, pour chez lui, je rappelle, chez quasiment tout le monde d'ailleurs, est reliée à l'idée du féminin, avec toutes ces ambivalences, je dirais ces ambiguïtés. Nous avons en particulier la traversée du lac, pas nocturne,
mais la brume.
Avec la brume, etc., c'est-à-dire l'eau en tant que dangereuse, en tant que traîtresse. Lorsque la barque apparaît, elle vient du centre, carrément du centre de l'écran, elle perce la brume et vient vers nous, spectateurs. Et à la fin de la séquence, elle retourne, se noyer, donc disparaître au centre de l'écran. Comme si toute la séquence est reliée, alors d'un point de vue plus secret, d'un point de vue presque de psychanalyse de l'eau, pour ceux qui reprennent les termes bachardiens, et l'idée de la mer, M-E-R-E, c'est-à-dire de l'idée de tout ce qui est l'eau maternelle, mais avec le côté inquiétude de cette eau, le côté mortel de cette eau, etc. C'est très subtil de ce point de vue-là, et c'est vrai que toute la séquence est faite à la fois sur les hommes et sur l'épouse du fermier, du paysan, qui mène la barque, car c'est elle qui mène la barque. C'est pas les hommes. Les hommes sont... et en revanche, l'épouse du potier, avec son enfant, et qui, elle, ne refait que ressentir dans ce monde étrange et dangereux, justement, l'immense danger que recèle cette eau.
Voyez, une barque.
Ah, un fantôme.
Non, je ne suis pas un fantôme, mais un pêcheur de Keizu. J'ai été attaqué par des pirates en allant à Azuki. De l'eau, par pitié. Où que vous alliez, attention aux pirates. Ils vous prendront la vie et vos marchandises. Et surtout vos femmes.
Bouddha et son âme.
Entre, enchaîne. Le danger est trop grand.
Débarquons les femmes. Nous irons seuls.
J'y vais pour te surveiller.
On t'enlèvera.
Je t'en prie, emmène-moi.
Pense à notre petit. Viens, Oania. Plus vite. Nous reviendrons avec de l'argent avant 10 jours.
Que les dieux vous protègent.
Évite la route. Prends les sentiers de montagne. Écarte-toi des villages. Ces malheurs ne dureront pas. Patience.
Soyez tous prudents.
À bientôt. Soigne bien Genichi. On rapportera beaucoup de pièces.
Papa! Bonne chance.
Après, vous avez, en revanche, le lac qui mène au fantôme. Et c'est la même idée, mais maintenant, c'est un lac représenté brillant avec le soleil. C'est un lac donc de désir, où l'eau, où l'eau joue le chatoiement et toutes les comment dirais-je,
toutes les ondulations de la lumière,
toutes les ondulations de la lumière, etc. Enfin, toutes les brillances possibles. Donc c'est l'eau de la fascination, de l'attraction. Pour arriver à la fin, à la petite source dans laquelle le fantôme baigne, là c'est archi fétal en plus, baigne son compagnon, qu'elle le nettoie, etc. Donc en plus, l'homme, vous me direz que c'est une coutume japonaise, c'est vrai, mais il y a aussi...
C'est une coutume japonaise que de...
Que la femme lave l'homme dans les bains.
Il est trop tôt. Reste couché, mon amour.
Où suis-je?
Aurais-tu tout oublié?
Le Seigneur est éveillé. Conduisez votre mari bien-aimé à la source. Vous n'avez plus besoin de moi. Tu doutes de moi? Tu me prends pour un mauvais ange, n'est-ce pas? Qu'importe, tu es à moi. Désormais, tu m'obéiras et tu seras à ma dévotion.
l'idée que Mizoguchi fait de ce bain, enfin par sa façon de la filmer, c'est bien quelque chose de l'ordre totalement de l'érotisme, où le désir, le plaisir est donné justement par cette femme, dont on sent, parce qu'il ne la montre même pas, dont on sent qu'elle va venir le caresser, et à ce moment-là, la caméra caresse en effet l'eau qui déborde de cette espèce de petite baignoire naturelle, et l'eau commence à couler dans la nature pour redécouvrir ensuite de nouveau l'étendue devant le lac, et maintenant cette fameuse course dont je parlais tout à l'heure, de l'épuisement de plaisir pour atteindre l'inaccessible fantasme du fantôme. Et tout ça devant l'eau qui scintille au maximum. On a vraiment, et donc passant du nocturne au diurne, c'est-à-dire qu'on retrouve le nocturne de la première scène où un fantôme apparaît aussi, qui n'est pas un fantôme, mais qui est un pêcheur qui va mourir parce qu'il a été attaqué.
Toujours dans ce lac inquiétant,
etc. Et vous retrouvez cette même idée retransposée maintenant dans cette séquence qui, en effet, immédiatement après, va entraîner la mort de l'épouse.
La mort de Miyagi, dans les contes de la lune vague, me cloua, déchiré, sur un siège du studio Bertrand. Car Mizoguchi avait filmé la mort comme une fatalité vague, dont on voyait bien qu'elle pouvait et ne pouvait pas ne pas se produire. On se souvient de la scène. Dans la campagne japonaise, des voyageurs sont attaqués par des bandits affamés, et l'un de ceux-ci transperce Miyagi d'un coup de lance. Mais il le fait presque par inadvertance, en titubant, mu par un reste de violence ou par un réflexe idiot. Cet événement pose si peu pour la caméra que celle-ci est à deux doigts de passer à côté. Et je suis presque persuadé que tout spectateur des contes de la lune vague est alors effleuré par la même idée folle et quasi superstitieuse. Si le mouvement de la caméra n'avait pas été aussi lent, l'événement se serait produit hors champ, ou, qui sait, ne se serait pas produit du tout. Serge Danet.
Alors, vous parlez du fantôme depuis le début. Qui est le fantôme ?
Le fantôme, c'est d'abord et avant toute chose la plus belle femme pour les Japonais du Japon à l'époque, c'est-à-dire Machi Kokyo, qui a été à ce moment-là un correspondant au Japon à ce qu'était Brigitte Bardot un peu chez nous, ou Marilyn, c'est-à-dire c'était vraiment le top du top de l'érotisme au Japon. C'est-à-dire, par ailleurs, à la différence de ses deux consoeurs, c'était par surcroît une excellente comédienne, pouvant jouer aussi bien en classique, c'est-à-dire donc comme elle le fait là, tout à fait en no ou en kabuki, qu'elle pouvait jouer en très moderne. Il ne faut pas oublier qu'elle a travaillé en particulier aussi avec Kurosawa, par Narashomon, etc. C'est quand même une... Et encore aujourd'hui, je crois qu'elle est une des grandes vedettes, bon, bah, évidemment maintenant elle est âgée, mais une des grandes vedettes du théâtre japonais. Enfin, elle reste une grande star. Ouais, bon. Alors ça, c'est important de savoir, parce que il ne prend pas n'importe qui pour faire le fantôme, il prend évidemment l'archétype absolu du désir érotique tel qu'une femme, à l'époque, pouvait le représenter.
Et voilà, elle arrive.
C'est ça. Là, nous sommes au marché. On est au marché, et à ce moment-là, elle arrive. C'est-à-dire, ce que Mizoguchi est en train de nous dire, c'est que toute cette activité, toute cette activité marchande, là, on entend, elle vient demander le vase, n'a qu'un but, c'est évidemment d'abord de gagner de l'argent, mais en fait, c'est de trouver par cet argent quelqu'un qui reconnaisse la beauté de son œuvre, en d'autres termes, que lui puisse obtenir la beauté de ce qu'il désire.
Attendez, je vais faire un arrêt sur image, parce qu'il est juste là devant nous.
Oui. Alors, il y a d'abord plusieurs choses. Mais évidemment, elle est habillée en costume XVIe siècle, avec tout le côté cérémonial de ce costume, d'une extrême beauté, avec ce immense chapeau, etc. Bon, ça c'est une chose. Elle est travaillée véritablement en femme aristocratique, pure aristocrate, à qui tout geste de quotidienneté est absolument interdit. Ce sont des sortes d'icônes, des sortes de déesses, pour qui la notion même de matérialisation est presque une obscénité. Donc elle est absolument quintessentiée, parfaite, etc. Le maquillage est évidemment très très appuyé, les dents noires, sourcils extrêmement faits, tout est artificiel. Et cette artificialité, Mizoguchi la met extrêmement en évidence pour manifester une beauté qui n'est qu'une beauté que de pur apparat, de pure extériorité, qui n'a aucune réalité interne. Ça, c'est la deuxième chose. Qui est en même temps, évidemment, pour les Japonais, signe d'un absolu d'immatérialité, donc d'emblée, signe de fantôme.
Alors, par exemple, ça, quand on regarde ce film, quand on regarde cette séquence-là de l'approche de la princesse Wakasa, sans connaître ce fond légendaire japonais, qu'est-ce qui nous dit, dans l'image de Mizoguchi, que là, on est en face de l'irréel ?
Simplement la mise en place. C'est-à-dire que derrière le potier, il y a une ligne oblique qui est celle que fait une maison, enfin, ou un bâtiment, qui coupe et qui fait que tout le fond est lourd, sombre. Il y a une femme dans le fond, mais une femme normale, mais comme si elle était éliminée. Et comme le plan est vu en contre-plongée, en revanche, le personnage du fantôme domine en verticalité tout le cadre.
Domine le potier.
Le potier est moitié bas de l'écran. Elle, entièrement dans l'écran, presque au centre de l'écran. Tout l'éclairage vient sur elle et elle se dégage totalement sur fond de ciel. Donc, elle est non pas donnée comme un fantôme, c'est pas vrai. Mais elle a tous les signes d'un personnage un peu fabuleux, un peu mystérieux, tellement belle, tellement importante, et ce personnage prête attention à un homme profondément, apparemment humble, sur des objets utilitaires qui sont quand même des bols, etc. Et donc, vous êtes dans l'étrangeté. En plus, toute son apparition, tout est fait sur l'étrangeté. Vous ne savez pas encore que cette étrangeté, évidemment, est signe ou code d'un monde fantomal.
René Siffer.
Les Japonais, comme les Chinois, voyaient des esprits un peu partout. et en particulier les animaux démoniaques qui se transforment surtout en femmes, parce que la femme est un être qui est essentiellement pervers. Voilà. Et donc le serpent, le renard, etc., prennent volontiers la forme, des formes féminines pour donc tromper les hommes.
Alors l'origine de cette princesse Wakasa qu'on voit dans le film, c'est un serpent en fait.
C'est en réalité une adaptation, multiples adaptations en Chine comme au Japon, de l'histoire dite du vieux serpent blanc. Aucune des deux langues n'exprime le genre, et je crois qu'il faudrait comprendre serpente, n'est-ce pas ? Et ce serpent blanc prend l'aspect d'une belle jeune femme pour tromper un homme et l'entraîner à sa perdition. Ceci peut être, il faut voir aussi l'optique bouddhique, n'est-ce pas ? La perdition, c'est-à-dire retomber dans les voies du karma, de mauvais, etc. Comme la fameuse histoire de Dojoji, laquelle est l'histoire d'une femme qui s'éprend d'un jeune moine pèlerin qui s'était arrêté une nuit dans sa maison, et lui s'enfuit, mais elle le poursuit. Et sa passion la transforme en serpent. Et lui se réfugie dans son monastère, où l'abbé et les autres moines essayent de le protéger. On organise toute une grande cérémonie de conjuration. Et on le place sous la grande cloche du monastère. Et on descend la cloche, c'est une énorme cloche, donc il est réfugié à l'intérieur de cette énorme cloche de bronze. Et la femme devenue serpent s'enroule autour de la cloche, et la chaleur de sa passion fait fondre la cloche, et le pauvre malheureux est calciné.
Est-il vrai aussi que les fantômes, qu'on dit que les fantômes sont souvent des femmes qui sont mortes trop jeunes ou qui sont veuves et qui reviennent sur Terre pour...
Les histoires des fantômes au Japon, il y a des fantômes absolument partout et tout le monde en a vu. Et en même temps, l'existence même du fantôme est niée avec obstination, aussi bien par le bouddhisme que par le shinto. On en a représenté dans des milliers d'estampes, etc., des peintures. Alors, la pire, c'est la femme jalouse, puisque, comme je vous disais, elle a tendance à se transformer en serpent cornu, en vieux serpent cornu, extrêmement méchant, qui va jusqu'à tuer son amant, son mari, par jalousie, et c'est une de celles que Misoguchi a utilisées.
Voilà, vas-y maintenant. Voilà, alors le potier maintenant, qui vient de gagner de l'argent, arrive chez un marchand de kimono et regarde la boutique. On peut arrêter une seconde, s'il vous plaît. Alors, le plan est fait de telle façon que nous sommes dans l'intérieur de la boutique, c'est-à-dire à la place des kimonos. Le marchand est traité en ombre chinoise et nous avons, en fait, comme si un cadre, qui est le cadre de l'écran, qui se faisait dans l'échancrure de la porte, et notre potier est sur l'écran. C'est-à-dire, le potier vient regarder au fond la salle où, inversement, on est peut-être nous-mêmes rentrer à l'intérieur de l'écran, et il vient regarder le monde du désir qui est celui des kimonos, c'est-à-dire, en d'autres termes, l'idée ou l'image que le kimono peut amener d'une femme, évidemment, tout à fait imaginaire et devenant peu à peu imaginable. Alors qu'on continue. Alors le marchand lui dit, c'est bien trop beau pour votre femme. Et immédiatement, par exemple, si vous êtes arrêté sur ce plan, nous avons un plan rapproché Le kimono d'un côté sépare l'écran et lui regarde le kimono. Et ensuite, maintenant, en projection d'ombre chinoise, sa femme apparaît.
C'est la musique qu'il a annoncée.
C'est ça, la musique l'annonce. Sa femme apparaît, elle arrive en ombre chinoise, maintenant elle vient de la lumière, et elle est en paysanne, avec son habit de paysanne, et d'un seul coup elle prend un kimono en main, et ce kimono, elle va le revêtir. Tout ça devant son mari qui nous tourne le dos. Donc nous avons le même point de vue que le mari. Et elle met le kimono, et à l'évidence, le kimono est bien trop beau pour elle, jamais elle ne pourra aller porter un kimono. Elle redisparaît, et à ce moment-là, le mari la voit disparaître, voit le kimono, et au fond est appelé maintenant par la servante du fantôme, et le fantôme apparaît. En d'autres termes, ce qu'il désirait profondément, eh bien, il faut qu'il se retourne totalement de sa femme, qu'il se détourne de sa femme pour le découvrir. Et maintenant, nous avons donc le kimono, du moins la femme, le fantôme, qui l'entraîne. Et maintenant, c'est cette admirable musique où peu à peu, nous voyons le potier suivre le fantôme et passer devant le lac avant d'arriver à la maison, etc.
Kenjiro, je ne veux pas te perdre. Partons ensemble pour la contrée d'où j'arrive. Toi, mon seul amour, tu veux bien, mon aimé?
Pardonnez-moi. Je vous ai menti. J'ai une épouse et un fils. Je les ai laissés dans l'horreur de la guerre.
Oublie tout cela.
Laissez-moi rentrer.
Non, jamais. Viens avec moi au pays qui est le mien. Que se passe-t-il? Regarde sur son corps. Genjuro, tu as trahi mon amour. Effacez ce qui est écrit sur votre peau. Pourquoi l'avez-vous épousé, étant déjà marié?
J'ignore ce qui m'a poussé à cette faute.
Pour un homme, c'est une faute. Mais pour une femme...
Pardonnez-moi et laissez-moi partir.
Certainement pas.
Effacez cette prière à Bouddha.
Genjuro s'enfuit. En se réveillant, il regarde la splendeur évaporée du manoir Kutsuki. Dans le contre-jour, quelques restes effondrés d'une charpente, l'herbe folle envahit l'image. Les paysages racontent éternellement la vie qu'ils génèrent. Et, à nouveau devant la peinture de Goto Sumio, Daniel Elisseyev retrouve les correspondances.
Cette peinture évoque le film parce qu'elle représente un paysage de neige. Le Ginkakuji est saisi sous la neige. Donc on a un effet de noir et blanc qui est rare chez Goto Sumio, qui peint plutôt des couleurs éclatantes. Et bien sûr, cet effet de neige nous ramène au cinéma. Il n'y a rien de plus raffiné, ou disons qu'il y a peu de choses aussi raffinées. Il y a beaucoup de choses aussi raffinées, mais il y a peu de choses plus raffinées que le fameux pavillon d'argent
de Kyoto, qui a été construit à la fin du XVe siècle et qui est le modèle de l'architecture japonaise moderne, avec sa maison complètement ouverte sur le jardin, une maison modulaire, une maison qui bouge, puisque suivant que l'on place les cloisons amovibles ou qu'on les enlève, on obtient une maison ouverte ou fermée, avec des grandes pièces ou au contraire de toutes petites pièces, etc. Cette peinture mise en rapport avec le film et souligne une très grande unité, je crois, de la nature et de l'architecture japonaise dans la nature. Et c'est que les matériaux sont les mêmes de la maison la plus pauvre à la maison la plus riche. Et que tous les architectes, qu'ils soient d'humbles paysans de village ou des artistes payés par l'empereur et les shoguns, et réfléchissent d'abord sur la qualité du bois. Et ce qu'ils vont chercher en premier, c'est un matériau qui se fonde dans la nature, qui exprime en même temps la vie, qui soit un peu vivant et je dirais presque éphémère comme la vie humaine, puisque bien évidemment, ces bâtiments de bois, il faut les reconstruire tous les 25 ou 30 ans. Et c'est en ce sens que là encore, l'architecture ou une peinture d'architecture entre en résonance avec le film de Mizoguchi, qui est un travail finalement sur l'impermanence, sur tout ce qui bouge, sur tout ce qui a l'air de durer un instant pour les uns et des milliers d'années pour les autres. Vous savez que c'est une contrainte à la fois magnifique parce qu'elle oblige à toujours se remettre en question, mais une contrainte terrible de l'architecture japonaise qui est évoquée, alors j'y reviens parce que nous sommes devant des peintures, qui est évoquée dans certaines scènes du fameux roman de Genji, enfin des peintures illustrant le fameux roman de Genji dont nous parlions tout à l'heure. C'est que ces maisons japonaises impliquent un entretien constant. Et on trouve dans le Genji des scènes qui se passent un petit peu dans des environnements semblables à celui-ci ou à ceux que l'on rencontre chez Mizoguchi. C'est-à-dire que le prince ou l'un des princes arrive pour revoir une belle qu'il a beaucoup aimée il y a quelque temps et puis qu'il a, disons, légèrement oubliée. Et pour faire comprendre au contemplateur la mesure de cet oubli, le peintre représente toujours une maison qui n'a pas été entretenue parce que le peintre n'a donné plus d'argent à la dame. Alors on voit la véranda dont les planches sont crevées et les toits qui sont arrachés, les colonnes qui sont à moitié entamées ou mangées par les rats ou je ne sais pas quoi. C'est un thème récurrent de la grammaire des signes japonaise, si vous voulez, de montrer le temps qui passe et l'abandon à travers l'état de la maison. Une maison, c'est quelque chose de vivant. D'ailleurs, il y en a un symbole très précis qui est le symbole du fameux temple très connu, du temple Shinto impérial de Ise au Japon, dans le sud du Japon, centre-sud, et où il y a un espace pour le temple bâti, le temple existant, et exactement le même espace vide à côté et bien couvert de galets propres, mais prêt à recevoir le prochain temple. Les maisons changent, évoluent, toujours pareilles dans leur forme, mais différentes dans leurs matériaux, exactement comme l'humanité.
Donc on a en effet, on assiste donc au retour de Genjuro après donc tout ce périple érotique, puisque c'est quand même de ça dont il s'agit. Et évidemment, pour un spectateur, si je reprends le cliché occidental, cette séquence est très étrange, hein, très étrange, puisque donc on se dit bon, il arrive chez lui et il doit retrouver sa femme. Bon, finalement, elle est morte, puis finalement, elle est vivante. Qu'est-ce que c'est cette histoire ?
En fait, là, pour l'instant, l'image ne nous indique rien, si ce n'est que le potier entre dans sa maison qui paraît abandonnée.
Voilà. C'est-à-dire qu'il y a cette indication-là, voyez-vous. C'est-à-dire que si on regarde l'image ici, elle est en ruine, cette maison. Si on essaie de comprendre cette séquence, et si on la ramène encore une fois à des expériences psychiques qui sont les nôtres, puisque, me semble-t-il, c'est bien ça dont il s'agit, en dernière instance, derrière la mise en scène. Un art du visible qui porte l'invisible. Bon. Eh bien, c'est le principe suivant. Vous avez quelqu'un qui est allé faire un périple, qui, au terme de ce périple, s'aperçoit qu'il aime sa femme, qu'il a envie de la revoir, et donc il prend, en quelque sorte, la route pour la retrouver. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe ? Ben, il se passe qu'il, nécessairement, il a une sorte de rêverie intérieure, non pas un rêve, mais une rêverie intérieure, ce qui n'est pas du tout la même chose, qui est celle, n'est-ce pas, en quelque sorte, d'anticiper les retrouvailles. Et au fond, quand il filme son personnage avec ça dans la tête, avec cette représentation dans la tête. Cette représentation entre en conflit avec les données brutes de la perception, qui sont l'image délabrée. Et évidemment, qui s'offre comme une sorte de déni de la représentation, qui est aussi bien celle du spectateur que celle du personnage ici même. Vous voyez combien, effectivement, un panoramique de ce type-là insiste absolument sur la délabrement et sur le vide, hein, et hop, d'un seul coup, elle est là.
Et il s'est passé un mouvement tournant de la caméra autour de la maison.
Absolument. Mais c'est d'abord aussi l'idée de quelqu'un qui ne voulant pas voir, plusieurs fois court et court, comme on cherche 20 fois, n'est-ce pas, le même objet dans le lieu qu'on a visité 19 fois. Bon. En même temps, on peut estimer aussi que c'est de l'ordre du rêve en même temps. Au niveau de la nuit, puisqu'il s'endort, un rêve qui aurait pu être produit, justement, c'est une théorie qui règne sur le rêve, par l'arrivée de son fils qui est en contre lui, va provoquer très exactement aussi ce qu'il désire, et va aussi provoquer ce qui peut être de l'ordre, je dirais, cette fois-ci, de la perception souvenir. On peut imaginer, en effet, et c'est là où Mizoguchi, d'ailleurs, est très féministe, que X fois jeune Juro, après la journée de travail, s'est endormi, tandis que sa femme travaillait la lampe, veillait toute la nuit pour travailler. Et lui, en quelque sorte, dans des fractions, n'est-ce pas, je dirais, de somnolence, ou d'insomnie plus exactement, n'est-ce pas, la voyait là, jouissait de sa présence et pouvait se rendormir. C'est exactement ici ce qui me semble être filmé, voyez-vous. Donc on voit à quel point il est rapporté. Vous remarquerez ici, par exemple, sur cette image, à quel point on divise encore l'image en deux.
Cette image, il serre son enfant contre lui, il pleure. Elle est de l'autre côté, et oui, et ce qui divise, c'est la lampe, c'est ça?
C'est la crémaillère. La crémaillère. Vous avez exactement la même image, avec la même division par la crémaillère, dans la fameuse séquence de la première retrouvaille que j'ai lancée tout à l'heure, où il est offert donc à manger et un beau kimono. Et où, si vous regardez de très près, vous apercevez qu'ils sont sans arrêt séparés, soit par la crémaillère, soit par la position relative en profondeur de champ, jeune Juro n'arrêtant pas de se séparer de sa femme alors qu'elle cherche à joindre le contact. Ici, par contre, là, il ne cherche plus à s'en séparer, mais il en est séparé. Ici, on voit combien, en effet, elle retourne au royaume des ombres, et elle-même, en quelque sorte, s'affaire dans le bonheur, n'est-ce pas? Et puis, d'un coup, ça s'arrête. La musique donne à ce moment-là cette énorme mélancolie intérieure de la séparation du couple, d'elle qui appartient au monde des ombres, qui est privée de son amour, et la grande souffrance que ça représente. C'est une image magnifique, précisément, à cause de cette tonalité émotionnelle qui renvoie à une expérience, un vécu intime, n'est-ce pas, qui est, encore une fois, celui de tout le monde, quand même.
Pourquoi es-tu morte?
Je ne suis pas morte, mon ami. Je suis près de toi. Ta longue route est à sa fin. Reprends ta place. Remets-toi au travail.
Mardi du cinéma. Les contes de la lune vague après la pluie, de Mizoguchi Kenji.
Comme c'est joli. T'aider est mon plus grand plaisir. J'ai hâte de les voir terminer. Les bûches sont prêtes. Il ne viendra plus de soldats pillards. Tourne tes poteries en paix. Il est arrivé bien des choses. Mais tu es devenu l'homme de mon idéal. Hélas, je ne suis plus dans le même monde que toi.
Avec Jean Douché, cinéaste, Daniel Cerceau, auteur de Mizoguchi, de la révolte aux songes aux éditions du Cerf, René Siffert, traducteur des contes de pluie et de lune d'Akinari, Daniel Eliseyev, enseignante à l'école des hautes études en sciences sociales, les contes de la lune vague après la pluie, par Simone Douek, mixage Pierre Mine, réalisation Daniel Fontanarosa.